Café César, la chronique autour de l'œuvre de la saga des Césars de Bernard Montault.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le 93.6. Vous êtes sur Radio Bulle, votre radio de la Genêt. Merci de votre fidélité. Myriam Besson avec vous pour vous présenter un nouveau numéro de Café César. Comme vous le savez, Café César, notre petite parenthèse d'enchantement, où je vous invite à voyager dans une histoire du vieux sage César, héros des romans de Bernard Montault, et à échanger en studio avec mes invités sur ce qu'elle nous a inspiré. Pour faire un vrai voyage sans bouger de chez nous, car ce sacré César, il bouscule nos idées reçues, nos façons de penser, et forcément, ça va nous faire un petit peu voyager, mais au-dedans seulement. Alors je salue mes participants du jour. Bonjour Patrick.
Bonjour Myriam, bonjour Christelle, bonjour à toutes et à tous.
Et bonjour Christelle.
Bonjour Myriam, bonjour Patrick, bonjour tout le monde.
Et nous saluons ensemble nos auditeurs et nos auditrices. Voici l'histoire du jour, qui est extraite du dernier César, l'imparfait heureux. Elle s'appelle « Le nouveau couple ». Il arriva qu'un jour, César et Jacques furent allés au marché du village. Évidemment, le vieil homme connaissait tout le monde. Évidemment, il n'avait pas cessé de serrer des mains, de saluer les uns et de sourire aux autres. Un vrai ministre en campagne électorale. Et puis, ils s'arrêtèrent devant l'étal du fromager qui venait juste de se remarier.
« Alors, ce mariage, il s'est bien passé, j'espère ?»
demanda César amusé.
« Oh oui, monsieur César, pour sûr on s'est bien amusé. Mais un mariage de vieux, c'est pas la même chose que chez les jeunes. » Et voilà, ça fait 12 euros pour vos fromages.
Ah, ça c'est sûr, un mariage de vieux. C'est celui d'un homme averti qui en vaut deux. Alors, prudence, même dans les réjouissances.
Visiblement, le fromager n'avait rien compris au trait d'humour du vieil homme. Mais ils se séparèrent sur un sourire réciproque. Jacques était ému par cette traversée du marché, comme si un César géant vivant 1000 km au-dessus de leur tête venez visiter un petit marché de Lilliputiens. Ce n'était pas le même monde, pas du tout les mêmes pensées dans leurs têtes respectives.
« Comme c'est étrange, une telle différence d'humanité !»
pensa soudain Jacques. Tandis qu'ils attendaient leur tour devant le stand du charcutier, Jacques voulut en savoir plus sur le mariage du fromager qui semblait tout de même très âgé.
« Dis donc, César, on se marie tard dans ton village ?» Il n'a vraiment pas l'air tout jeune, ton marchand de fromage.
Oh mon ami, le mariage, c'est quand même un drôle de truc, tu sais. Et c'est du lourd. En fait, on se marie pour épouser la reproduction de son passé. On se marie pour avoir une seconde maman ou un second papa. Et nos conjoints ne sauront pas mieux nous aimer que durant toute notre enfance. C'est du lourd, je te dis.
Jacques était perplexe devant une telle réponse, aussi inattendue. Bon, il trouvait que César exagérait un peu, que le mariage était aussi une jolie histoire d'amour, même si parfois cela se soldait par un divorce. Alors qu'ils étaient servis en jambon, saucisson, pâté de tête et tout, César se tourna vers son jeune ami pour lui glisser à l'oreille.
« C'est du lourd le mariage, je te dis. Je crois que les humains se marient toujours avec celui ou celle qui leur empoisonnera le plus la vie. Écoute bien ce que je te dis. »
Non, César, tu exagères. C'est quand même aussi deux êtres qui s'aiment.
Nigo, observe comme ils s'aiment. En recommençant toutes les amours déçues de leur passé. C'est vraiment tout un art de la miséricorde que de rester avec celui qu'on épouse. Je crois même que c'est cela qui est sacré dans le mariage. Être capable de rester en gardant le sourire avec celui qui nous empoisonne la vie. C'est ça exactement. C'est ça. Le sacrement du mariage.
Mais César,
coupa Jacques, vraiment interloqué par ce regard inattendu sur les choses.
Alors, pourquoi se marie-t-on ?
Tu es un angelot, mon ami. On se marie pour apprendre la miséricorde. On épouse d'abord la beauté de l'autre, mais pour rester avec lui, il va falloir aimer aussi sa laideur. Et si tu passes avec celui ou celle, alors tu pourras passer avec tout le monde sur terre, parce que tu as fait le plus dur dans ton mariage.
Jacques prit le gros paquet de charcuterie qui s'ajoutait aux légumes et aux fromages qu'il portait déjà. et il se mit à trottiner pour attraper le vieil homme déjà reparti ailleurs. Ensuite, ils croisèrent Antoine, le fermier voisin de César. Et bien sûr, comme pour donner raison à ce bougre de César, il ne cessa pas de se plaindre de sa femme. Jamais un câlin, jamais un mot gentil, jamais un bon petit plat. Et le vieil homme hochait la tête, amusé, en grognant en guise d'acquiescement. Visiblement, il savourait la situation, en observant du coin de l'œil Jacques qui serait volontiers parti en courant. C'est une fois la voiture, après avoir posé tous les paquets, que César reprit soudain la conversation, en ayant la victoire modeste.
« Tu sais, mon Jacques, ne crois pas que je sois contre le mariage. Bien au contraire, je crois que c'est une excellente école pour apprendre à aimer l'imperfection d'autrui. Sans doute la meilleure. C'est du lourd que de savoir rester avec l'être aimé. C'est du lourd, la fidélité. C'est du lourd, toutes les années à passer. C'est du lourd, la sexualité pas toujours réussie. C'est du lourd, les orages. Et pourtant, il faut rester. »
Jacques en fut ému soudain. Comme si l'humanité vivait dans le mariage une expérience si précieuse pour la croissance intérieure de toute l'espèce humaine. Comme si cette histoire savamment organisée de bien plus haut, cette nouvelle manie de s'accoupler, allait permettre aux humains de rencontrer l'autre sexe à l'autre bout du monde.
« En fait,
songea-t-il,
le mariage, c'est pour apprendre à entrer dans le monde de l'autre, percevoir le monde de la femme pour un homme, celui de l'homme pour une femme, et essayer de l'aimer, de vivre avec ce martien. »
Soudain, le mariage lui parut vraiment étrange et magnifique à la fois.
« Et les mariages homosexuels, César, cela change quoi alors ?»«
Mais mon ami, cela ne change pas grand-chose, puisqu'il faut encore rester avec celui ou celle qui va le plus nous empoisonner l'existence. La seule chose qui change, c'est qu'ils n'ont pas à changer de monde pour s'aimer. Ils n'ont pas à franchir l'infini entre les hommes et les femmes, puisqu'ils aiment le même sexe qu'eux-mêmes. »
Voilà, c'était l'histoire du jour de César. Le couple, c'est du lourd. Vous êtes bien dans Café César avec Myriam et ses invités sur Radio Bulle, votre radio de la Genêt. Alors, mes invités, quel sentiment, quelle réaction vous avez sur ce point de vue inédit sur le mariage ?
Moi, déjà, je trouve que c'est un texte magnifique et que tout est dit, quoi. Hein. Vivre avec une personne... c'est comme on dit dans le mariage, hein, pour le meilleur et pour le pire.
Oui, c'est aussi, et je suis bien d'accord avec toi, Christelle, quand il nous explique qu'au fond, on va à chaque fois reproduire le passé. Et on va souvent reprendre les traits de papa ou de maman. Et quand on va bien y réfléchir, là aussi, à mes auditrices et à mes auditeurs, regardez le couple que vous faites avec votre compagne ou votre compagnon et demandez-vous quels sont les traits qui existent entre le père et la mère. Vous verrez que souvent, on s'en approche. On ne se marie pas par hasard avec n'importe qui.
Et dans la même optique, que recherchez-vous ?
Et voilà, que recherchez-vous ? Si ce n'est de reproduire la même chose. Car
Mon Dieu, on
est victime du passé. Regardez ce que nous faisons. Nous faisons tous les jours les mêmes choses. On reproduit en permanence le passé.
Et c'est tellement inconscient.
Oui.
C'est tellement inconscient, je dirais. Pour l'anecdote, César Guita, vous savez qu'elle est venue de Hongrie et elle a fait... C'est curieux, il faut quand même que je redise le contexte. Elle a fait un mariage blanc. Elle s'est mariée avec Lassie pour pouvoir venir en France, pour fuir le communisme. Et en fait, au final, après, elle est tombée amoureuse de lui. Et donc, voilà, c'était ce que je voulais rappeler. On peut faire un mariage au départ, finalement, sans amour. Et puis, ça arrive souvent. On en parlait dernièrement avec Christelle.
Oui, parce
dans
que
d'autres
moi, je
civilisations,
connais,
dans d'autres peuples.
Un couple comme ça.
Oui, mais c'est vrai.
Oui. Et l'enseignement de Bernard Montault sur le couple, c'est vraiment quand notre conjoint fait quelque chose que l'on ne supporte pas, qui nous choque ou qui nous blesse... Apprendre à le regarder, apprendre à non pas regarder ce qu'il fait ou ce qu'il dit, mais à essayer de sentir mais quelle misère il a ou quelle misère elle a pour faire ceci ou pour dire cela. C'est très difficile. Mais c'est un exercice à faire si on veut pouvoir l'accepter comme il est.
Et être rempli de compassion avec celui ou celle avec qui on partage la vie, quand on le voit sous cet axe, cet angle-là, oui. En disant « mais qu'est-ce qu'il souffre pour me dire ça ?» Plutôt que de dire « mais quel abruti, il n'a rien compris, il est vraiment nul !» Dire « mais qu'est-ce qu'il doit souffrir pour me proférer ça ?» Et ça donne tout de suite un autre relief. Quand on commence à regarder la misère de l'autre, c'est compliqué. Et en essayant de se dire aussi, mais
c'est vrai que
s'il me dit ça, quelle est la partie de moi qui est touchée ?
Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est vrai qu'il faut commencer évidemment par soi pour arriver à le faire avec l'autre.
Nous sommes dans une
mais quelle
bulle.
École ?
Et d'un autre côté, moi j'ai envie de dire, on entend, il n'a pas fait ça. Ou, comme dans le texte, il n'y a plus de câlin, il n'y a plus... Ok, d'accord, vous me parlez de l'autre. Mais vous ? Est-ce que vous le faites ?
Et est-ce que vous vous aimez suffisamment pour pouvoir en faire aux autres ? Car n'oubliez jamais que pour aimer l'autre, il faut s'aimer soi-même.
Ouais,
et que, effectivement, si je ne fais pas d'abord mes épousailles avec moi-même, je peux difficilement épouser l'autre. Donc, pour faire les épousailles avec soi-même, il faut véritablement s'accepter tel que nous sommes. En disant « je m'aime ». Et combien de personnes sur cette terre ne s'aiment pas ? Comment puis-je aimer l'autre si je ne m'aime pas ? Alors, c'est pas faire preuve d'égoïsme. C'est pas faire preuve de narcissisme. C'est faire preuve de bienveillance avec soi. C'est totalement différent. C'est être bienveillant, ne pas se blesser.
Et c'est vrai que... Pour revenir à Bernard Montault, par rapport au couple, lui, son chemin, son vrai chemin a commencé finalement après son divorce. Et ce n'est pas Guita qui l'a accompagné, c'est Josette Martel, c'est une dame pour qui il avait eu un coup de cœur qui était de l'ashram d'Arnaud Desjardins. Et il avait subi un tel séisme et c'était une telle épreuve pour lui... que d'ailleurs c'est là qu'il s'est dit mais je vous ferai écouter le petit extrait où il en parle. Ça a été un point de bascule pour lui et maintenant je sais qu'il forme avec Patricia un couple qui fait envie à tout le monde parce que vraiment c'est un couple qui rayonne.
Oui, et puis peut-être aussi parce qu'il a pu se détacher et qu'il voue aussi une autre forme d'amour à son épouse avec laquelle il s'est séparé. Car c'est ça aussi. Plutôt que d'en vouloir à l'autre, c'est dire à l'autre, mais finalement, je l'aime bien quand même, je peux comprendre sa souffrance. Et en comprenant la souffrance de l'autre, même si elle m'a quitté, c'est de me dire, elle ne mérite pas que je la traite comme ça. Je continue à l'aimer. C'était Stéphane Drouet qui le disait, qui a vécu aussi un œil et qui dit... quand je repense aux années passées avec mon ancienne compagne, je l'aime vraiment. J'ai pour elle énormément de reconnaissance maintenant.
Oui.
Je ne suis plus dans la rancœur, je ne suis plus dans le rejet, je suis dans la reconnaissance et dans l'amour.
C'est exactement ce que je voulais témoigner, mais c'est quelque chose qui prend du temps.
Ah oui.
Parce que moi j'ai divorcé, donc là ça fait 4 ans. Et je dois bien. Et en sachant cet enseignement sur la miséricorde, ça redoublait le jugement que j'avais sur moi. Pour moi, c'était un échec. C'était la double peine. Parce que je me disais, mais alors moi, j'ai pas su l'aimer avec. J'ai pas su l'aimer à tel endroit, à tel endroit. Sinon, on n'en serait pas arrivé là. Et il m'a fallu plusieurs années pour, comme tu le dis, pour accepter. C'est comme ça, ça fait partie c'était une relation qui devait changer, qui devait évoluer, que je devais passer à autre chose. Et j'arrive maintenant à voir qu'il y avait du beau aussi, il y avait pas qu'il y a eu des belles années, qu'il y a eu des beaux projets. Et d'ailleurs, la radio, c'est grâce à ce précédent couple que j'ai plongé dans l'univers de la radio.
Et bien voilà.
Et donc j'ai grandi dans ce couple.
Bien sûr, tout n'est pas à rejeter. On ne peut pas dire... Quand on se sépare de l'homme ou de la femme avec qui on est en couple, tout a été mauvais. On a l'impression, quand on entend les gens, qu'ils ont vécu des catastrophes. Certes, mais il y a eu quand même du bon. Il y a eu quand même des rencontres. Il y a eu quand même des enfants, souvent. Il y a eu de bons moments. Et on ne peut pas tout oublier comme ça en disant oui. « Je rejette tout parce que finalement, je ne l'aime plus.
Oui. »
C'est une sacrée aventure, oui, le couple.
Oui.
C'est du lourd.
C'est du lourd. Alors, je vous proposais d'écouter justement le témoignage de Bernard, non pas sur son couple, mais sur son divorce.
Il faut que je vous parle d'un moment essentiel, c'est-à-dire comme si dans ma vie, il y avait eu un point de bascule important. J'ai passé de l'âge de 17 ans à l'âge de 30 ans, donc presque 13 ans, dans une quête qui était très orientale, parce que mon père avait un maître chinois. Et je vais atteindre un certain niveau de performance. J'ai lu, beaucoup étudié, dans un espèce de rattrapage effréné d'une scolarité ratée. Et en devenant quelqu'un qui étudie des trucs tellement rares qu'il fallait être un spécialiste, quoi, comme une espèce de rattrapage de scolarité ratée. J'ai lu, je connais les réponses de tous les sages, les machins, et un beau jour, ma femme part avec mes enfants. La porte claque, je m'assois sur les escaliers et je pleure. Et je pleure comme un homme qui est malheureux, qui a été trahi, qui a été abandonné. Et je m'aperçois stupéfait que ce qui me fait le plus souffrir, ce n'est pas le départ de ma femme et de mes enfants, c'est que moi qui réponse à tout, qui fais des conférences partout, j'ai aucune réponse par rapport à mes larmes. Je ne peux pas les arrêter. Et c'est là que quelque chose va être un énorme point de bascule dans ma vie. C'est-à-dire, je vais cesser d'étudier, cesser de lire. Le seul livre que je continue de lire, c'est les dialogues avec l'ange et les évangiles. C'est tout, c'est les seuls livres. Je ne lis plus. J'ai arrêté toute lecture, toute érudition. Et je vais passer à quelque chose d'énorme, c'est il n'y a que la pratique qui compte. La pratique, la pratique, la pratique. T'es malheureux maintenant, qu'est-ce que t'en fais? T'es malheureux maintenant, qu'est-ce que t'en fais? T'es malheureux maintenant, qu'est-ce que t'en fais? Et donc ce point de bascule, il est extrêmement important parce qu'il fait passer de cet homme les arts martiaux, le taoïsme, le bouddhisme, l'hindouisme, les sutras, tout ce que vous voudrez. Les selles, t'es en train de t'énerver au volant de ta voiture devant le feu rouge, et ça, qu'est-ce que t'en fais ça? Ça, c'est pas de la théorie, ça, c'est de la pratique. Et la deuxième partie de ma vie qui va aboutir à Gitamalas, à César l'éclaireur, c'est la partie de ma vie qui n'est plus érudite, mais qui est en train de prendre en charge le malheureux au quotidien que je suis.
Alors, après cette petite parenthèse hors antenne, chers auditeurs, nous avons continué à parler parce que c'est un sujet qui réveille beaucoup de choses. Alors, je vais demander à Patrick et à Christelle, en une phrase, que diriez-vous pour résumer ce que nous avons partagé sur ce thème du couple?
Moi, j'ai envie de dire que le couple, c'est un entraînement quotidien.
Je partage assez ce que vient de dire Christelle. C'est une habitude. C'est un art de vivre à deux.
Ah, c'est très
dans
beau.
Les bonnes, oui. Avec les belles choses et puis les moins bonnes.
Oui.
Il va falloir accepter l'imperfection de l'autre. Quand tout va bien, c'est formidable.
Oui.
Mais il va falloir que j'accepte aussi les mauvais jours.
C'est ça.
Il va falloir savoir que malheureusement, souvent, dans la vie, il peut y avoir des périodes où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mauvais jours. Et là, c'est bien de se sentir qu'on est deux. Le reste, après.
C'est très beau. Et puis, on a quand même un témoignage de Patrick qui a vécu 50 ans de mariage. Ça, je tiens à le souligner.
Oui, ouais, c'est vrai.
Parce
c'est
que
un
c'est
record.
Quand même, c'est quand même exceptionnel.
Oui,
donc, il y a beaucoup de choses à nous apprendre encore,
tout à
Patrick.
Tout à fait, tout à fait. C'est pas long fleuve tranquille.
Et comme disait Christelle, c'est la phrase que l'on a tendance à éluder. Je me marie pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur de l'autre, mais pour le pire de l'autre aussi.
C'est vrai, c'est ça.
Et dans les deux sens, ne l'oublions pas.
Alors, ça y est, c'est le moment de se dire au revoir. Eh bien, l'émission se termine. C'était Myriam Besson et ses invités pour Café César sur Radio Bulle 93.6. Grand merci à Patrick et Christelle pour leur chaleureuse et généreuse contribution. On se retrouve quant à nous dès la semaine prochaine, même jour, même heure, sur votre radio de la Genée pour la suite des aventures de César. Il nous en reste encore deux pour terminer la saison.
Voilà.
Donc soyez au rendez-vous. Et n'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez participer, même dans ces deux dernières émissions, et devenir un des invités du jour. Contactez-moi à myriam@radiobulle.net. Au revoir tout le monde.
Au revoir tout le monde.